Cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 janvier l'an 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Petite question d'hier, à propos d'hier. Vous comprenez ce que je vous ai dit, hein? J'ai des choses tout à fait fondamentales auxquelles on doit tout le temps revenir. J'empiète un peu sur le permettre quand je vous dis. Alors, je m'excuse. Au dernier cours, vous nous avez parlé de l'importance dans notre vie humaine et chrétienne de la recherche de la vérité au niveau philosophique. Pourriez-vous préciser la modalité particulière que cette recherche prend pour nous comme frère de Saint-Jean. Ce qui est vrai pour tout chrétien, a pour nous une importance capitale. Voyez, Dieu, l'Esprit Saint, suscite des familles religieuses. Or, là, vous pouvez être sûr que ce n'est pas moi, mon intention. Donc, si c'est un frère qui a demandé, si c'est plusieurs frères qui ont demandé, c'est le souffle de l'Esprit Saint. Et je ne regrette rien, n'est-ce pas ? Je vois en effet, au bout de 25 ans, combien c'est nécessaire. Le grand mal dans l'Église, Paul VI le disait déjà avec sa précision très grande. C'est peut-être le pape qui a le plus affirmé la nécessité pour l'intelligence de découvrir l'existence de Dieu et d'affirmer l'existence de Dieu. Et Paul VI avait une précision très très grande. Paul VI, je l'ai entendu de mes propres oreilles, le mal le plus grand dans l'Église actuellement, c'est le fidéisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le fidéisme ? C'est de croire que parce qu'on a la foi, on n'a plus besoin d'être intelligent. C'est ennuyeux. Parce qu'on a la foi, on n'a plus besoin de rechercher les vérités que notre intelligence est capable par elle-même d'atteindre. L'existence de l'âme, l'existence d'un être premier, notre créateur. Et c'était très impressionnant de voir quelqu'un comme Paul VI affirmer ça. C'était une petite audience, on n'était pas nombreux, de philosophes et de théologiens. Et j'avais été invité, étant à Fribourg, enseignant la philosophie, on m'avait invité. Et c'est très, très net. Notre pape actuel, l'encyclique, montrant que ce n'est pas l'affaire de l'Église, comme Église, d'avoir une philosophie. C'est l'affaire de la conscience humaine, de notre conscience d'homme. Et en tant qu'homme, en tant que chrétien, en tant que vivant dans un monde très intellectuel, quelquefois faussement intellectuel, mais très intellectuel, nous avons eu le devoir de chercher par nous-mêmes et avec notre intelligence la vérité sur des points essentiels. Et sur les points qu'on ne peut pas affirmer, que nous ne pouvons pas avoir la vérité. Pas faire une fausse
apologétique. En raison de certains mots, on affirme trop. Voilà à quel moment l'âme humaine est créée. Le philosophe ne peut pas le dire. Et le Saint-Père le dit dans son encyclique hein, sur la vie. Il le dit. Alors, on peut émettre des opinions, mais on doit toujours considérer que c'est sans opinion. Il ne faut pas, au point de vue apologétique, aller trop vite. Parce que c'est toujours ennuyeux quand on représente l'Église. Comprenez bien, quand on est prêtre, on représente l'Église dans son enseignement philosophique et théologique. Alors, pour nous, puisque nous avons été suscités d'exister par le Saint-Esprit pour cette recherche de la vérité, c'est capital pour nous. Notre rectitude fondamentale repose sur cette recherche de la vérité. Pour l'Église, au plan philosophique, au plan théologique, puisque la théologie dépend de la philosophie. Forcément. On met l'intelligence au service de la foi. Alors vous pouvez mettre au service de la foi une intelligence lamentable, une intelligence qui ne fait que répéter sans rien comprendre. Ou bien vous pouvez être intelligent comme croyant. Ce qui vaut mieux. La foi chrétienne étant tellement grande, qu'elle réclame que l'intelligence humaine fasse tous les efforts possibles pour mettre au service de la foi un instrument plus parfait. Et c'est pour ça qu'on fait de la philo. Quand on fait de la théologie, on met son intelligence philosophique, une intelligence perfectionnée par la philosophie, affinée. Comparer, dans les communautés, très souvent, les couteaux ne coupent pas. Hein. Ça, c'est courant. Parce qu'on ne fait pas de révision des couteaux, moi, ils ne coupent pas. Moi, ça me fait toujours penser aux intelligences humaines. On vit avec un bien commun, alors notre intelligence récite des leçons. C'est comme ça, c'est ça que l'Église a dit. Et on ne cherche pas à voir ce que nous pouvons, par notre intelligence, découvrir. Quand on l'a découvert soi-même, on le donne d'une manière plus profonde, plus directe. Et on a précisé le petit chemin qui pouvait y conduire. Donc pour nous, c'est un devoir particulier et essentiel. Vous voyez, comprenez bien, je ne veux pas dire du tout qu'on doit être un ordre intellectuel, c'est pas ça du tout. On doit cultiver notre intelligence au service de la foi. Mais on doit cultiver notre intelligence pour elle-même, en faisant de la philosophie. Deuxièmement, je précise, parce qu'on aurait pu mal le comprendre, quand je vous dis, on doit avoir sa philosophie. C'est-à-dire que la philosophie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter sans la comprendre, parce qu'on la répète toujours mal. Alors sa philosophie, c'est-à-dire savoir soi-même chercher la vérité. Il n'y a pas 36 philosophies vraies. Non. C'est pas chacun sa philosophie, vous voyez. Non. Le Saint-Père l'a montré. Il y a la philosophie de ce qui est. C'est celle-là seule qui peut découvrir l'existence de Dieu. Parce que quel est le lien qui existe entre Dieu et nous? Si Dieu existe, le seul lien qui existe entre Dieu et nous, c'est notre être. C'est pas notre nature humaine, si remarquable qu'elle soit. C'est pas notre humaine. C'est pas notre intelligence humaine. Notre intelligence participe. Elle est participée. Elle n'est pas substantielle. Mon intelligence n'est pas substantielle. Mon âme est substantielle, mais pas mon intelligence. Elle est quelque chose qui émane de mon âme. Donc elle est nécessairement, au point de vue précision philosophique, un être second et pas premier. Et c'est très important ça, à préciser, parce qu'alors on ne comprend pas bien les rapports entre la nature et la grâce. Si je dis avoir une intelligence substantielle, ce que Platon dit, et les néoplatoniciens, si je dis avoir une intelligence substantielle, c'est-à-dire première, mon être est intellectuel, non mon être, c'est mon âme. J'ai une intelligence capable d'atteindre la substance, comme un principe. Mais je n'ai pas un mode substantiel dans mes opérations vitales, spirituelles. C'est toujours accidentel. Alors dire l'intelligence ne peut pas être accident, c'est faux, au point de vue de l'être. Elle est quelque chose de participé. Dieu crée mon âme. Il ne crée pas directement mon intelligence. Il crée mon âme spirituelle. Enfin, autrement, on tombe dans l'erreur de Feuerbach. Mon intelligence est capable d'atteindre la substance comme principe d'être. Mais mon intelligence n'a pas un mode d'existence substantielle. Elle appartient à mon âme. Elle vient de mon âme. C'est très important, ça. Dans un jugement de sagesse, une créature, comme créature, ne peut pas avoir une intelligence substantielle. Seul Dieu a une intelligence substantielle. Son être, c'est d'être intelligent. Tandis que votre être, c'est pas d'être intelligent. Je crois que vous n'avez qu'à réfléchir deux minutes pour savoir que votre être, c'est pas votre intelligence. Vous êtes intelligent par moment. Quand vous dormez, vous êtes intelligent. Et vous existez. Votre âme existe, elle dort. Ma contemplation, elle n'est pas mon être. Elle m'est donnée gratuitement. Et ma contemplation atteint Dieu, qui est la réalité substantielle, mais je ne l'atteins pas avec une modalité substantielle. Ce sont des petites distinctions qui sont capitales. Parce que la petite erreur là-dessus fait que nécessairement on aboutit à une espèce de panthéisme. On ne voit plus avec suffisamment de netteté ce qu'est la création. Dieu crée des êtres. Des êtres créés qui peuvent être substantiels qui peuvent être intelligents, mais qui ne sont pas intelligence dans leur substance. Alors il faut l'âme au point de vue vie. C'est très vrai. Quel est ce qu'il y a de plus vital en moi? Donc au point de vue vie, elle est première. Mais au point de vue être, elle n'est jamais première. Alors la confusion entre être et vie font qu'on dit que son intelligence est substantielle. Ça, il faut arriver à faire que ça soit évident pour vous. C'est le premier jugement de sagesse, hein. C'est que Dieu seul a une intelligence substantielle. Mon intelligence, si elle vient de Dieu, si elle est dépendante de mon être, ne peut pas être substantielle. C'est la même chose pour mon amour spirituel dans le métier. N'a pas de mode substantiel. Bien qu'il atteigne une substance, la personne, j'aime la personne. Alors, quand je dis, il faut avoir sa philosophie, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse arriver à affirmer par nous-mêmes, par notre intelligence, l'existence de l'être premier, l'existence de mon âme, l'existence de mon intelligence participée. Alors, c'est ça que j'appelle avoir sa philosophie. Que notre philosophie soit la vie de notre intelligence. La vie de notre intelligence. Toucher à notre intelligence et toucher profondément à notre vie. C'est quelque chose de premier dans notre vie. Mais la philosophie qui cherche la vérité, qui atteint la vérité et qui la cherche toujours plus, est une philosophie qui atteint la réalité. Et dans la réalité, elle atteint l'être. Une philosophie qui touche l'être de toutes les réalités. Et qui s'éveille en découvrant l'être de toutes les réalités. Vous voyez, elle est ma philosophie, mais ma philosophie reste objective, reste une recherche de vérité qui me dépasse et devant laquelle je m'incline. Ma philosophie me permet de m'incliner devant la vérité et de rechercher la vérité au-dessus de tout, au point de vue de mon intelligence. Cette vérité, c'est Dieu. Elle est mienne parce que je l'ai découvert, j'ai travaillé pour la découvrir, j'ai accepté en mendiant d'avoir des maîtres. Accepter d'avoir des maîtres, c'est de pouvoir aller plus vite. L'homme n'est pas fait pour être autodidacte, puisqu'il naît en famille. Dieu se serait complètement trompé, vous comprenez ? Ce qui fait qu'on est comme un tout petit enfant, donc dans une dépendance totale, et une dépendance totale de tout notre être, de toute notre vie. On n'est pas autodidacte. La brebis est bien plus vite autodidacte mais autour vit que le petit enfant. Au 5000 qu'il est né, il est debout. C'est extraordinaire, ça. Tandis que le petit enfant, il faut dire, il est dépendant d'un milieu. Dieu a voulu qu'on soit dépendant d'un milieu. Et d'un milieu formidable, qui montre bien que Dieu aime qu'on reconnaisse cette dépendance et qu'on se libère de plus en plus de cette dépendance. Mais la dépendance à l'égard de ce qui est, un vrai maître, on ne s'en libère pas, mais on prend de lui ce qu'il y a de meilleur. Et on discerne toujours ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas se libérer de tout. Quand on dit la vérité vous libérera, oui, elle vous libère en vous mettant en dépendance de plus en plus grande de la réalité. La découverte de Dieu me met en dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Être en dépendance totale vis-à-vis de Dieu, c'est la grande manière d'être libre. Quand on met la liberté au-dessus de tout, on ne comprend pas. Au-dessus de la liberté, il y a l'amour. L'amour naît de la liberté. Et l'amour est relatif à un autre. Pas à moi, à un autre. M'aimer, c'est très bien, mais ça provient d'un autre, avec lequel je peux m'aimer. Oui, donc, la philosophie a quelque chose d'objectif, puisqu'elle cherche la vérité. Si la philosophie commençait par la subjectivité, par le cogito, par l'intelligence, alors chacun nous aurions notre vérité. Chacun nous aurions notre philosophie. Mais la philosophie ne commence pas par le cogito, elle commence par l'affirmation « ceci est ». Et c'est toujours cette affirmation « ceci est » qui est présente dans toute ma philosophie. Le « ceci est » prend une dimension infinie quand on dit « il est nécessaire que Dieu existe ». L'objectivité de la philosophie ne supprime en rien le caractère propre et personnel de la philosophie. Plus une philosophie est objective, plus elle est personnelle. C'était très extraordinaire, mais c'est comme ça. Parce que si elle est subjective, elle s'enferme dans le sujet. Et le sujet est toujours moindre que l'être. C'est sûr. Le sujet, c'est moi. Et c'est pas toi. Tandis que l'être, c'est toi et moi. Et ce toi et moi, ça va jusqu'à Dieu. Une philosophie de l'être va jusqu'à Dieu. C'est Dieu et moi-même, créé par Dieu. Une philosophie réaliste commence par ce qu'il y a de plus proche pour nous. Ce qu'il y a de plus proche pour nous, c'est notre activité artistique. Faire quelque chose, réaliser quelque chose. Ça, je crois que tout le monde a ce sens-là. D'où le point de départ de la philosophie, d'une philosophie réaliste, c'est la philosophie du travail, du facere. Et le travail est parfaitement travail chez l'artiste. l'artiste, je prends l'artiste au grand sens, pas le fantaisiste, hein, l'artiste. L'artiste qui fait quelque chose veut que ce soit fini. Et c'est en ce sens-là qu'on a compris qu'il était bon d'avoir des ateliers. Parce que pour le travail intellectuel, c'est bon de pouvoir, en quelque sorte, reposer notre recherche purement intellectuelle dans un travail et découvrir dans ce travail la première réflexion philosophique. Une vraie philosophie réaliste doit commencer par le travail. Vous voyez, c'est très curieux. Alors là, c'est une donnée historique. Au fond, la philosophie scolastique a laissé tomber ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Aucune philosophie du travail. Le marxisme s'en est emparé. C'est la paresse des philosophes qui a fait naître le marxisme. S'ils avaient été intelligents et continué de travailler, ils auraient pu comprendre les difficultés dans un travail qui devient de moins en moins personnel et qui s'universalise. Alors la finalité n'est plus présente. C'est ça le côté tragique de la division du travail. C'est qu'il n'y a plus de finalité. On ne touche plus la finalité. Alors c'est très fatigant. À côté de cette philosophie du travail, il y a la philosophie éthique. Facere et la gérer. Avoir le sens très net de la durée. Distinct du facere, parce que le facere est plus connaissable et plus objectif. Dans la durée, l'aspect subjectif est premier. L'intention. L'intention, c'est subjectif. Avoir de bonnes intentions. Chez l'artiste, s'il a de bonnes intentions, mais qu'il rate tout, pauvre artiste. On juge l'artiste d'après ce qu'il fait. Bon, quand on me dit, oh, c'est la merveilleuse artiste, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors il cogite. Un enfant, il s'amuse. Le jeu, c'est tout près de l'art. Mais l'art est très différent du jeu. Vous voyez, il y a ces activités multiples de l'homme. Il y a le jeu. Le jeu, vous le cassez du côté du travail ou du côté de l'agir. Donc vous avez une troisième dimension. Facere, agere, et puis le jeu. Alors, il n'y a pas la philosophie du jeu. Alors, la philosophie du jeu, en regardant qu'il y a une part du facere, une part de la durée, et le jeu est quelque chose de très particulier. Et donc, il faut bien distinguer ces trois. Et puis, vous avez le point de vue communautaire. Autre chose est de vivre seul, autre chose est de vivre dans une communauté. La communauté a ses exigences. On peut aimer plus la solitude pour travailler, pour contempler, mais on doit comprendre ce que la communauté apporte, ce que la communauté a d'unique. C'est très important de comprendre cette base sur laquelle on revient tout le temps. Notre philosophie est premièrement une anthropologie. C'est une anthropologie. Et ensuite, on s'élève pour comprendre le devenir de notre corps. Le problème de la santé du corps, le problème du vivant et le problème de l'être. Il ne faut jamais les séparer, il faut les distinguer et les distinguer de plus en plus et de mieux en mieux, mais ne jamais les séparer. Ça a été le défaut de beaucoup de philosophes, et c'est le défaut de certains philosophes encore aujourd'hui, qui ne veulent voir que le devenir. Alors qu'il y a quelque chose qui est au-delà du venir, notre personne. Notre personne, elle s'est faite. Et à un moment donné, notre personne, elle prend tout en main. Et notre personne est au-delà du devenir. Et notre personne est au-delà de ce que représente la vie. C'est un peu un résultat immanent, propre à nous-mêmes. Quand nous étudions profondément l'homme, on voit qu'il y a autre chose que le devenir corporel, autre chose que le biologique. Il y a l'esprit. Et l'esprit ne peut être étudié dans toute sa lucidité que par l'intelligence. Au fond, la philosophie, la métaphysique, c'est la philosophie de la vie de l'intelligence. La vie d'intelligence qui creuse, qui veut creuser tout le temps plus. Alors, elle veut chercher les différents aspects de ce qui est en tant qu'il est, du toon éon, la fameuse affirmation d'Aristote, du toon, le toon, c'est id quod est, donc ce qui est en tant qu'il est. Chercher l'être. Quel est mon être? C'est pas mon être humain. C'est pas mon être rationnel. Ce n'est pas mon être passionnel. Mon être. Je suis capable, avec le temps, de bien distinguer cette connaissance de l'être en tant qu'être. Et je recherche alors, à ce moment-là, les diverses causes. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans l'être? De premier au plan détermination, au plan indétermination. Je recherche ce qu'il y a de premier dans l'être au point de vue de la forme. L'être n'est pas la forme. Mais l'être, se donne à moi sous cet aspect forme, sous cet aspect matière. C'est pas étonnant, parce que je suis matière et je suis forme. Il y a en moi des déterminations qui ne proviennent pas de la matière. Il y a des déterminations qui proviennent de la matière. Il y a en moi une possibilité de dépasser la matière. Chacun d'entre nous, on a une amitié avec Platon. Platon est le premier philosophe qui a bien distingué forme et matière. Il les a tellement bien distingués que, après, on a une peine énorme de le dépasser, ça. La distinction matière et forme, c'est Platon qui la montre admirablement. Et à ce point de vue-là, c'est merveilleux. Platon, c'est quelqu'un qu'il faut lire. On ne peut pas avoir fait ses études philosophiques sans avoir lu au moins Saint dialogue de Platon, le jeune Platon, le Platon qui mûrit, le Platon qui se critique lui-même, le Platon qui à la fin arrive à avoir un certain regard plus pur, plus de sagesse. Mais il faut aimer Platon. On aime Saint Augustin, et il y a beaucoup de Platon dans Saint Augustin. Les pères de l'Église ont été très influencés par Platon. Et donc il faut le connaître. Platon a du bon, mais il a aussi un terrible danger. Platoniser, ça veut dire vivre dans un idéal. Séparer la forme de la matière. Il fait de la distinction une séparation. Le mérite d'Aristote, c'est d'avoir dépassé la forme de Platon. Pour dépasser la forme de Platon, Aristote a inventé l'acuité. Il faut bien voir ça. Le mot d'Aristote, touti eneinain, l'acuité, c'est pour dépasser la forme en soi. La forme a une intelligibilité, sa acuité, elle est intelligible. Mais cette forme, elle n'existe pas par elle-même. Elle existe dans la matière. Et c'est tout le problème de l'âme, ça. Est-ce que l'âme peut exister par elle-même, indépendamment du corps? Mais il y a encore un certain platonisme dans ceux qui veulent que la création de l'âme soit tout de suite, immédiate. Ils oublient tout l'ordre de la disposition de la matière. Une matière s'élabore pour pouvoir être capable d'être déterminé par une forme parfaite. Le grand mérite d'Aristote, c'est d'avoir dépassé la forme de Platon, d'avoir découvert qu'il y a autre chose dans la réelle. Il y a une finalité, un au-delà de la forme, une finalité. Et que si je veux connaître la réalité dans ce qu'elle a de plus profond, de plus radical, je me pose la question, quelle est sa finalité. Vous voyez, le problème d'Aristote face à Platon, c'est de découvrir que la forme est pour la fin. Il faut se servir de la forme, de la détermination. Il faut être déterminé, il faut être un être déterminé et non pas rester toujours dans un aspect incoatif. Mais il faut comprendre que la détermination, elle s'achève dans une finalité. Alors, voir la différence entre la détermination de la forme et la finalité. C'est un très très gros problème, ça. Il y a un problème philosophique extrêmement important. Qu'est-ce qui finalise l'être ? Est-ce que l'être se finalise lui-même ? Est-ce que l'être se finalise lui-même ? Ou est-ce que l'être, en se finalisant, ajoute quelque chose à l'être ? Mais ajouter quelque chose à l'être, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du non-être, non ? C'est de l'être. Que tout ce qui est, est être. Alors vous voyez la difficulté de voir ce dépassement de l'être. Ce dépassement, c'est pas le dépassement de l'être, c'est le dépassement de la forme. Je dis ça, c'est parce que le père Maréchal, lui, découvre la finalité comme un dépassement de l'être. Un surêtre. Il y a Nietzsche qui est un surêtre. Alors, il n'y a pas de surêtre. Il y a un surdétermination, une surforme. Au-delà de la forme, il y a la fin. Alors, il faut que nous découvrions ça d'abord par mode d'expérience. Il faut que ce soit quelque chose que l'on touche. La détermination ne suffit pas. Il y a une super détermination qui est la fin. Un être finalisé est un être qui est non seulement déterminé, mais qui se sert de sa détermination pour atteindre ce qu'il achève. Alors, nous pouvons découvrir cela d'abord dans le point de vue artistique. L'artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il se sert d'une matière qu'il détermine. Il y a des artistes qui se contentent de déterminer. La détermination est parfaite. On ne peut pas ajouter un cheveu. La détermination est parfaite. Mais l'académisme en art, c'est la détermination parfaite. C'est le ronron du chat qui est heureux. Et il manque du foulecan. Ah. Qu'est-ce que c'est que le foulecan ? Il manque quelque chose. Pourquoi le nouvel âge ? Pourquoi ce besoin d'éclater ? Parce que la détermination, se finaliser elle-même dans l'académisme. La loi se finalise elle-même en ne voulant que la loi. Le droit canon se finalise lui-même en voulant que la seule chose, c'est l'application de la loi. Mais non, l'application de la loi, elle est pourquoi ? Pour que j'atteinte ma fin. Pour que je la dépasse. Et que je ne reste pas dedans, muselé, bien enveloppé. C'est très important de saisir ce dépassement de ce qui est formel, ce dépassement de la loi. Et ce dépassement de la loi ne peut se faire que par la saisie de la fin. Il faut rester dans la forme, mais en la dépassant. Le ronron sur la forme, s'enfermer dans la forme, c'est terrible. C'est un air confiné, c'est un air qui devient irrespirable. Alors on éclate. Une communauté qui a perdu le sens de la finalité est une communauté qui éclate dans le Nouvel Âge. Parce qu'on a perdu le sens qu'il y a quelque chose de plus que la détermination, être parfait, intègre. C'est pas ça qu'on cherche. C'est pas celui qui est parfait, intègre. On cherche celui qui est bon. C'est reposant de trouver quelqu'un qui est bon. Dans un monde qui ne sait plus ce que c'est que la bonté, la gratuité. Vous voyez, cette découverte de la bonté. On a tous fait ça, cette découverte de la bonté. On est stupéfait, tout d'un coup, de rencontrer quelqu'un de bon, mais de foncièrement bon. On peut tout attendre de lui. Il est foncièrement bon. Alors que quand on est habitué de rencontrer uniquement des êtres parfaits, pas de défauts, mais ils sont ennuyeux. Terriblement. Il n'y a pas de fuite. Il n'y a rien. Alors, il faut cette découverte de la finalité, cet éclatement, ce dépassement pour être parfaitement homme, la finalité étant dans l'homme et pas en dehors de l'homme. C'est rendre l'homme ennuyeux. Parce que l'homme, par son intelligence, est fait pour un absolu. Il est fait pour découvrir une fin. Il est fait pour dépasser le point de vue purement formel. Et atteindre la fin. Et essayez de découvrir ce que ça représente, là. On a tous cette expérience-là. C'est tous. On voit très bien. Cet ennui des choses parfaitement ordonnées. Vous savez, un salon auxquels les meubles n'ont pas bougé depuis 100 ans. Il y a des chaises, il n'y a personne pour s'asseoir. Et tout est bien rangé. C'est un musée. Le musée a quelque chose de comme ça. Hein. C'est un musée. Et c'est très ennuyeux qu'une maison habitable soit un musée. On n'habite pas un musée. Pourquoi on n'habite pas un musée? Parce qu'il y a des gendarmes qui nous empêchent. Il y a des gens qui surveillent. Le musée, tout doit rester bien. C'est très intéressant de voir Malraux quand il parle de l'invention du musée. L'invention d'un musée, c'est une humanité qui n'a plus assez de vitalité. Alors elle se replie dans un musée, un coffre-fort. Bien sûr, je reste là. Et c'est vrai. Tandis que la vie, on n'a pas besoin de musée. La réalité me permet de me dépasser. Et au moment où je me dépasse, je ne suis pas dans un musée. Je suis dans un musée au moment où j'ai dépassé et que je demeure dans ce dépassement. Et que je considère que ce dépassement est correct. Alors je suis dans un musée. L'âge du musée. Et Malraux a saisi ça d'une façon très, très étonnante. Et avec intelligence. Et c'est pour ça que Malraux a dit « Le troisième millénaire existera s'il est mystique, autrement il périra. » Parce qu'il avait compris que l'âge du musée, la réflexion sur ce qu'on a fait, l'âge de l'herméneutique, c'est l'âge du musée, la critique sur ce qu'on a fait. C'est terrible, l'humanité qui se contente de contempler ce qu'elle a fait et qui n'a plus l'audace d'aller devant, qui se réfugie derrière le droit canon où c'est propre, où c'est correct. On ne pourra pas vous condamner, hein. Mais rien qui se fait, c'est ennuyeux. Tout est déjà vu, est déjà fait. La finalité ouvre cette porte vers quelque chose. On tend vers ce quelque chose. On a en soi cette possibilité de dépassement.